Il semble que la première fois, ou une des premières fois où Camus se définit comme un artiste, c'est dans les Carnets, en 1945. Pourquoi suis-je un artiste et non un philosophe? C'est que je pense selon les mots et non selon les idées. C'est la première affirmation d'une suite de commentaires où Camus va aimer régulièrement se mettre à distance de certaines étiquettes qui lui sont accolées. Il souligne ici son adhésion aux mots plutôt qu'à la pensée. Son souci premier, on le sait, restera du début jusqu'à la fin de sa vie, l'édification d'un langage, cette conquête sur le langage. S'il concède que, je cite, « le roman n'est jamais qu'une philosophie en images », la plupart du temps, il se démarque franchement de l'appellation. La même année, en 1945, il va confier au journal « Servir » le fameux propos « Je ne suis pas un philosophe, je ne crois pas assez à la raison pour croire à un système ». Et on le sait, la pensée a pour lui une valeur si elle est applicable dans la vie, et inversement, la vie est valable si elle est consciente. Et c'est dans ce sens qu'en 1957, son ami René Char pourra lui appliquer cette phrase de Nietzsche qui lui va très bien. « J'ai toujours mis dans mes écrits toute ma vie, toute ma personne, j'ignore ce que peuvent être des problèmes purement intellectuels ». On sait aussi qu'il refuse régulièrement la dénomination, la responsabilité de maître à penser, de donneur de leçons. Dans un entretien qui est donné aux Nouvelles littéraires en 1951, Gabriel Daubarède va demander à Camus « Voici qu'à son tour, la nouvelle génération vous tient aujourd'hui pour un de ses maîtres. » Camus, en riant, répond « Un maître, déjà? Mais je ne prétends enseigner personne. Qui le croit est dans l'erreur ?» Les problèmes qui se posent aujourd'hui à la jeunesse sont les mêmes que ceux qui se posent à moi. Voilà tout. Or, je suis loin de les avoir résolus. Je ne me reconnais donc aucun titre à jouer le rôle dont vous parlez. Les différents interlocuteurs, ceux qui interviewent Camus, utilisent en fait indifféremment plusieurs termes pour définir le statut de Camus. C'est le cas par exemple de Jean-Claude Briseville, qui commence l'entretien par interpeller Camus sur, je cite, sa vocation d'écrivain, l'interroge un peu plus tard sur un rapport quelconque chez l'artiste entre la vie du corps et l'inspiration, et tout en lui demandant pour conclure ce qui distingue selon lui le créateur. Donc chez Camus aussi, ces termes semblent parfaitement équivalents. Il répond ainsi Camus à une question de Franck Jautran, je cite, l'artiste, l'écrivain, ne sont pas mis au monde pour faire plaisir à la jeunesse, ils sont là pour dire la vérité. Donc si pour nous aujourd'hui, en 2013, le terme d'artiste renvoie plus directement aux arts picturaux, voire musicaux, force est de constater qu'il paraît évident ce terme dans la bouche de Camus et de ses contemporains. En effet, par Jean Grenier, Camus va accéder à tout un héritage de la NRF, c'est-à-dire à une tradition d'écrivains comme Proust, comme Gide, comme Claudel, qui se considèrent et qui se définissent comme des artistes, et qui, à la suite de Mallarmé, éprouve un véritable culte pour l'art. Même Sartre, dans « Situation de l'écrivain » en 1947, va évoquer, je cite, « l'écrivain qui, depuis 100 ans, rêve de se livrer à son art dans une espèce d'innocence ». Ce terme, en fait, artiste, permet, je pense aussi, de dépasser les genres et d'englober, en plus du statut de romancier, celui de dramaturge, voire de metteur en scène. Et on connaît l'attachement de Camus profond pour le théâtre et ses grandes ambitions dans le domaine. Par ailleurs, ce vocable « artiste » ne surprend pas quand on considère les origines de la vocation de Camus. On sait que la découverte des livres va se confondre dans son esprit avec la découverte de l'art. Il n'est qu'à écouter attentivement Camus, lui-même, relater les différentes expériences médiatrices qui lui ont permis, vers l'âge de 17 ans, dans les années 30, dans un milieu, je cite Camus, où personne ne savait lire, mesurez bien cela, de s'ouvrir à un autre univers. Alors dans les années 30, effectivement, plusieurs événements qu'on connaît. D'abord, le fameux choc procuré par la lecture de Richaud, La douleur d'André de Richaud, qu'il raconte à différentes reprises. D'ailleurs, c'est très intéressant. Et en particulier, là, j'ai juste saisi une phrase dans l'interview de Vidjani. Je cite, « J'ai découvert qu'un enfant pauvre pouvait s'exprimer et se délivrer par l'art. » Dans le même entretien, Jean Grenier devient, à travers la formule périphrastique, je cite, « celui qui a ouvert la porte de l'art ». Gide enfin, qui est présenté par Camus, là encore, je cite, « comme le modèle de l'artiste, le gardien, fils de roi, qui veillait aux portes d'un jardin où Camus voulait vivre ». On remarque d'ailleurs dans ces différentes expériences l'utilisation de l'image de la porte, du seuil, qui exprime bien ce qu'il a fallu franchir comme, on va dire, comme frontière intérieure à ce fils de prolétaire pour devenir lui-même. Mais c'est que Camus, en dépit de ses origines pauvres, voit grand, hein, d'emblée. Et les premières pages de ses carnets, donc qui datent de 1935, l'attestent. Il ne manque ni d'ambition, ni d'orgueil, et plus que de littérature, il est déjà question d'œuvre d'art. Je cite, hein, « L'œuvre est un aveu, il me faut témoigner, je n'ai qu'une chose à dire, à bien voir, c'est dans cette vie de pauvreté, parmi ces gens humbles ou vaniteux, que j'ai le plus sûrement touché ce qui me paraît le sens vrai de la vie. Les œuvres d'art n'y suffiront jamais, l'art n'est pas tout pour moi, que ce soit du moins. » Que du moins ce soit un moyen. Donc à la fois l'art semble un absolu, mais jamais une fin en soi. L'art est toujours au service de la vie, jamais il ne s'y substitue, comme par exemple chez Proust. Et cette conviction, elle ne se démentira pas chez Camus, elle ira croissante. Alors dans ce premier fragment des carnets, moi je trouve qu'on peut être sensible au « il me faut témoigner ». Qu'on va retrouver d'ailleurs en juillet 37 à travers le « il faut dire et dire vite ce qui remplit le cœur », ce qui n'étonne pas évidemment chez ce jeune homme atteint de tuberculose et qui sait que le temps lui est compté. Et cette formule, on la retrouve encore de la même manière, « il me faut témoigner » en 36, et elle devient quelques mois plus tard « il me faut écrire comme il me faut nager ». Et cette utilisation récurrente du verbe falloir est intéressante parce qu'elle souligne justement cette impérieuse nécessité d'écrire, et ça révèle finalement aussi peut-être la perception de Camus, qui au départ présente l'écriture comme une nécessité. Il n'écrit pas « je dois », mais utilise cette forme impersonnelle qui traduit déjà une sorte de dépossession du projet qui semble dépasser son auteur. Il y a bien au départ finalement une sorte d'enjeu vital de l'écriture, hein, qu'il formulera autrement dans la préface aux Îles de Grenier, je cite, « quelque chose, quelqu'un s'agitait en moi et voulait parler ». Il me fait songer au jeune poète qui doute de sa vocation et à la réponse que Rilke lui adresse pour tester la solidité de son appel. Je cite Rilke, « il n'est qu'un seul chemin, entrez en vous-même ». Cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même, mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire? Ceci surtout, demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire? Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la plus vide, doit devenir signe et témoin d'une telle poussée. Un journaliste qui posera sensiblement la même question à Camus. Il répondra « Plus jeune, j'aurais pu être heureux sans écrire. Même aujourd'hui, j'ai encore de grands dons pour le bonheur muet. Cependant, je dois reconnaître maintenant que probablement je ne saurais plus vivre sans mon art. » Hein, notez ce possessif qui révèle aussi l'appropriation progressive de ce destin singulier. Alors on le sait, dès le départ et jusqu'à la fin de sa vie, Camus est obsédé par le problème de la création artistique. Cela va se traduire, il me semble, à travers deux lignes parallèles. La première, elle est faite d'interrogations récurrentes, de théorisation progressive qu'il va incarner, qui s'incarne notamment par exemple dans l'article « L'intelligence et l'échafaud » ou encore dans le chapitre « Philosophie et roman » du mythe de Sisyphe, et qui se poursuit dans « L'homme révolté » bien sûr, hein, dans telle ou telle préface aussi éventuellement, ou correspondance. Et la question qui domine dans cette première ligne, c'est bien le pourquoi de l'œuvre d'art, son statut, sa fonction. La seconde ligne, il me semble, s'apparente davantage à un cheminement personnel, à un mûrissement progressif, une sorte de long accouchement à lui-même, et interroge davantage le comment de l'œuvre d'art. Alors, en ce qui concerne la première ligne, c'est sûr que l'interrogation sur le statut et la fonction de l'œuvre d'art apparaissent dès le mythe de Sisyphe. Le recours à l'art semble bien sûr une réponse possible face à l'absurde. Pour Camus, je cite, « La révolte humaine a deux expressions, qui sont la création et l'action révolutionnaire. En lui et hors de lui, l'homme ne peut rencontrer au départ que le désordre et l'absence d'unité. C'est à lui qu'il revient de mettre autant d'ordre qu'il le peut dans une condition qui n'en a pas. » Bon, du rocher de l'absurde qui écrase les êtres et qui les nie, Camus, on le sait, a une connaissance intime et non pas livresque. J'ai repris cette phrase célèbre de l'été, « Oui, il y a la beauté et les humiliés. Hein. Quelles que soient les difficultés de l'entreprise, je voudrais n'être jamais infidèle ni à l'une ni aux autres. » Donc au-delà de la formule célèbre, se dessine une conception de l'écriture qui est évidemment indissociable du fait humain, indissociable de la douleur, de l'humiliation. Les conditions modestes de son enfance qu'on connaît, le côtoiement plein de compassion pour des êtres écrasés par la vie, vont engendrer une certaine conception de l'art qu'il redéfinit au moment du Nobel. « Si mon art m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. » Camus va redire autrement cette interdépendance entre l'art et la douleur dans la préface qu'il consacre à la ballade de la geôle de Reading d'Oscar Wilde. Là, il considère que l'enfermement en prison de l'écrivain lui est salutaire puisqu'il y fait l'expérience de la solidarité et de la compassion. La densité d'un texte littéraire vaudrait par cette identification de la douleur et de l'art. Le discours du Nobel et la conférence d'Uppsala, où Camus parle à nouveau de Wilde, Camus va défendre ardemment sa conception de l'artiste, et il y manifeste que dès l'origine, la poétique camusienne ne sépare pas le geste de la création du monde et de sa douleur. Camus ne fait pas du tout allusion aux actions concrètes qu'il va engager par ailleurs pour réduire l'injustice ou la souffrance humaine. Il ne fait pas non plus appel à ce qu'on pourrait appeler des œuvres à thèse qu'il est. En revanche, il est désireux de servir par le talent et par la création artistique. Et pour préciser cette conception de la littérature, Camus va créer une formule assez curieuse au demeurant, celle de création corrigée, dont il va déployer les tenants et aboutissants dans L'homme révolté à travers le chapitre Révolte et art. Il développe cette idée que l'homme ne peut ni consentir au réel qui l'entoure, ni s'y soustraire. Et la création romanesque comporterait alors une signification morale. L'artiste ne doit pas répéter le réel, mais tout en gardant une référence constante à lui, le corriger en opérant des choix narratifs et stylistiques. Il s'en dégage en fait une sorte de refus du formalisme, qui serait une fuite du réel et un oubli du monde, et aussi un rejet du réalisme en art, qui serait alors une soumission totale au réel. Ici aussi, en lisant ce chapitre de L'homme révolté, on comprend bien que le vocable écrivain est bien trop faible, bien trop neutre, pour contenir finalement tous les enjeux que Camus assigne à la littérature. En revanche, celui qui transforme, celui qui, pour reprendre les termes de Camus, ajoute ce quelque chose qui va transfigurer le réel, ne peut être qu'un artiste. Toutes ces réflexions théoriques manifestent que l'art, pour lui, et on le disait dès hier soir, est bien sûr inséparable d'une dimension éthique. L'art, je cite Camus, fait retentir le silence des humiliés. L'art aide à vivre, pour reprendre une très belle expression qu'il emploie à diverses reprises pour qualifier les œuvres qu'il admire. Donc l'art a incontestablement une portée morale. Alors, à côté de cette réflexion théorique sur laquelle on aura l'occasion de revenir sur cette semaine, hein, sur le statut et la fonction de l'art, qu'il déploiera d'ailleurs sur un mode majeur dans les conférences au moment du Nobel, se fait entendre, donc c'est la deuxième ligne dont je parlais tout à l'heure, tout un questionnement personnel dont les carnets et la correspondance se font l'écho. Pour Camus, c'est sûr, l'œuvre naît d'un long mûrissement de l'être. Hein. Le problème, écrit-il dans les carnets, est d'acquérir ce savoir-vivre, avoir vécu plutôt, entre parenthèses, qui dépasse le savoir-écrire. Et dans la fin, le grand artiste est avant tout un grand vivant. Mais comment devenir un artiste ? Les carnets sont exemplaires, justement, parce qu'ils révèlent des aspects les plus concrets aux débats torturants les plus intimes, finalement, de la vie d'artiste. Alors, de la discipline, par exemple, qu'il faut s'infliger. Le corps est un élément fondamental dans l'acte d'écrire, et la preuve en sont ces conseils très pragmatiques que se donne Camus. Lever tôt, douche avant petit déjeuner, pas de cigarette avant midi, obstination au travail, elle surpasse les défaillances. Il y a beaucoup d'injonctions de ce type. Je l'ai vu au moment du colloque Carnet, sur la 16, hein, Camus revêtant l'habit de l'écrivain moine et souhaitant tout mettre en œuvre pour favoriser l'effort de création, y compris la chasteté. Ça, voilà. Il y a de longs dé... Je ne sais pas si c'est resté un vœu pieux. Ne sont pas absents non plus dans les carnets les doutes, hein, les doutes atroces qui parsèment le chemin en dépit de la reconnaissance des pairs et de la critique. Par exemple, au moment de l'interminable rédaction de La Peste, hein, il écrit « De toute ma vie, jamais un tel sentiment d'échec. Je ne suis pas même sûre d'arriver jusqu'au bout. » Et un autre petit fragment, le 8 août 57, une sorte de point culminant dans la détresse, je le cite, « Pour la première fois, après lecture de Crime et Châtiment, doute absolu sur ma vocation. J'examine sérieusement la possibilité de renoncer. » Alors, les questions esthétiques taraudent aussi Camus, hein, les problématiques de fond récurrentes, hein, sur le style. Plusieurs fragments font allusion à, je cite, « son anarchie profonde », à son désordre affreux. Il est convaincu que, je cite encore, « donner une forme à ce qui n'en a pas, c'est le but de toute œuvre ». L'écrivain donc apparaît comme un homme qui est en recherche constante de justesse et qui revendique aussi la nécessité d'un style pour chaque sujet. Le langage est vraiment perçu tout au long de la vie de Camus comme une résistance, hein, qu'il faut éprouver. Je cite, hein, ce propos commun, « La véritable œuvre d'art est celle qui dit le moins ». Ou encore « La première chose, une fois de plus, est d'apprendre à se dominer ». Et d'ailleurs, certaines notes de lecture, dès 1933, donc vraiment à l'aube de sa vie d'artiste, où Camus commente en particulier Stendhal et pas mal Gide d'ailleurs, témoignent que dès le démarrage finalement, il a ce désir de maîtriser ses débordements. Quoi. On le voit à travers cette citation, « Ma sensibilité doit parler, non crier ». Donc c'est vraiment un travail de toute une vie. Par ailleurs, on voit aussi que l'artiste est régulièrement confronté au manque de temps. À Pierre Berger, qu'il déçoit par son manque de disponibilité, il écrit en 53, hein, « Pour suffire à tout, il me faudrait aujourd'hui 3 vies et plusieurs cœurs. » Poursuit un peu plus loin. D'ailleurs, mon œuvre ne m'a pas libérée. Pardon, depuis quelques années, d'ailleurs, mon œuvre ne m'a pas libérée. Elle m'a asservie. Et si je la poursuis, c'est que je n'y puis rien et que je la préfère à tout, même à la liberté, même à la sagesse ou à la vraie fécondité et même, oui, même à l'amitié. Transposé sur le mode romanesque, cette inquiétude de l'artiste tiraillée entre les besoins du monde et sa propre création, bien sûr, va se retrouver à travers le personnage de Jonas, de L'Exil et le Royaume. Alors la vie d'artiste est difficile à vivre, hein. Même quand on a une idée assez précise de ce qu'on veut faire, c'est le cas de Camus, hein, comme on le sait, la preuve en sont ses plans, hein, ses structures, ses fusées à différents étages qui préfigurent les fameux cycles qu'on connaît et dont on trouve assez vite la trace. Ce n'est pas un roman que Camus souhaite écrire, mais vraiment une œuvre, hein, dont il définit les grandes lignes assez vite dans ces célèbres trilogies. Mais à partir des années 50, cohabite avec cette maîtrise de l'œuvre, sur l'œuvre, le pressentiment qu'autre chose l'attend, que les projets démonstratifs sont terminés, et que ce qu'il appelle une création libre l'attend. Différentes expressions qui parsèment alors les carnets signalent justement cette nouvelle manière d'envisager l'œuvre à venir. Et on perçoit que là où Camus veut aller, à partir des années 50, la volonté n'y pourra rien, qu'il faut que cela mûrisse, que cela fait appel à une sorte de dessaisissement, ce sont des termes de Camus lui-même, à une sorte de démarche involontaire et à une capacité qu'il aura ou non, finalement, à libérer ce qu'il nomme la part obscure. Alors le texte qui exprime cela de manière éclatante, le temps, le mûrissement, enfin les attitudes intérieures auxquelles ils font consentir finalement pour faire naître l'œuvre d'art, c'est bien sûr la préface à l'envers et l'endroit. Un texte majeur en forme d'anamnèse qui est paru en 58, mais dont on voit quelques extraits qui apparaissent dans les carnets en 1949. Bon, on connaît l'enjeu de cette préface. Au moment de rééditer l'envers et l'endroit que Camus considérait comme un texte mal écrit, il s'explique sur cette réédition, et tant mieux pour nous, parce que je pense que c'est une sorte de... Bon, écrit 2 ans, on peut dire que c'est une sorte de... quelque chose, un côté testamentaire, en fait, dans ce texte aussi, qui est intéressant pour nous. Et dans la première partie donc de cette préface, à la suite du commentaire de Brice Parrain sur l'envers et l'endroit, Camus concède en dépit des maladresses esthétiques, il y a, je cite, plus de véritable amour dans ces pages, je rappelle que l'envers et l'endroit est paru en 1937, que dans toutes celles qui ont suivi. Et Camus aussi concède là qu'il y a dans l'envers et l'endroit tous ceux là aussi qui témoignent à ses yeux de la vérité. C'est là aussi qu'il dit que sa source d'artiste, il aime à utiliser cette image, est dans l'envers et l'endroit, dans ce monde de pauvreté et de lumière où il a grandi. Puis vient après dans la préface quelques pages où il fait une sorte de bilan de ses 20 années de vie intellectuelle parisienne, pas toujours facile, évidemment. Et puis, dans les dernières pages, il revient à son œuvre. Il revient à lui, il revient à son œuvre. Et ces dernières pages, donc, se conjuguent au futur, comme on se rappelle. Elles ne manquent ni d'emphase, ni de lyrisme. Il s'agit pour Camus, c'est ce qu'il nous dit à la fin de la préface, d'écrire un jour... une œuvre qui ressemblera à l'envers et l'endroit sur le fond, mais qui saura trouver une langue appropriée, un style maîtrisé, un équilibre enfin atteint entre, je cite, ce qu'il est et ce qu'il dit. Bon, on peut espérer et imaginer que cette création qu'il appelle de ses voeux, cette réécriture de l'envers et l'endroit, s'incarne pour une part dans le premier homme qu'il est en train d'écrire, donc à la fin de ces années 50. Alors ce qui frappe dans cette préface, c'est cette haute idée de l'art, qui ne s'est jamais démentie. Un art soumis au temps, soumis au mûrissement personnel de l'homme. Et ce qui retient l'attention, et ce qui retient à chaque fois mon attention quand je relis cette préface, c'est que cet artiste, qui est déjà l'auteur d'une œuvre abondante, qu'on connaît, reconnue, même consacré par un Nobel, s'interroge encore, et qu'il a l'impression, non pas que son œuvre n'est pas terminée, ce qui semblait un propos évident, surtout quand on considère l'âge de Camus, mais que son œuvre n'est pas commencée. C'est ce qu'il écrit, « Mon œuvre n'est pas commencée ». Donc 2 ans avant sa mort, dont il ne peut, bien sûr, n'imagine pas l'imminence, il apparaît comme un homme qui, en dépit de l'actif, n'est pas satisfait, n'est pas rassuré, n'est pas apaisé, contenté, qui attend encore d'écrire, je cite, « l'œuvre dont il rêve ». La source n'est pas tarie. Dans son beau livre « Camus, une morale de la beauté », Pierre Louret constate qu'aux yeux de Camus, je cite, « Chaque artiste mérite considération du moment qu'il a mis dans son œuvre le meilleur de lui-même. » Camus d'ailleurs dira de Joyce « Ce qui est émouvant chez lui, ce n'est pas l'œuvre, c'est le fait de l'avoir entreprise. » Même si Camus, par ailleurs, sait se montrer sensible à l'œuvre, pour elle-même, c'est quand même un besogneux qu'il met en scène dans La Peste. Ce cher grand qui reprend et corrige inlassablement sa première phrase. Donc au moment de commencer ce colloque, c'est cet effort de création que je voudrais saluer. Cette quête jamais satisfaite, cette soif jamais étanchée, et ce désir qui s'entend très particulièrement dans cette confidence qu'il fait à Albert Maquet. J'avance du même pas, il me semble, comme artiste et comme homme, et ceci n'est pas préconçu. C'est une confiance que je fais dans l'humilité à ma vocation. Mes prochains livres ne se détourneront pas du problème de l'heure, mais je voudrais qu'ils se le soumettent plutôt que de s'y soumettre. Autrement dit, je rêve d'une création plus libre, avec le même contenu. Je saurai alors si je suis un véritable artiste. Je vous remercie.